19h05 dans deux secondes. À venir à l'émission, on aura la chance d'avoir Mathieu Jolivet avec nous parce qu'on va parler du match 4 entre les Raptors et les Bucks qui mènent cette série 2-1. Le match, la victoire des Raptors a été faite en deuxième période de prolongation. Évidemment, on va surveiller le tout pour vous. On aura la chance de parler avec Danny Dubé également ce soir. C'est le match numéro 6 des Sharks qui pourrait subir l'élimination sans Carlson, sans Hertel du côté des Sharks de San Jose. Danny Dubé sera avec nous pour nous en parler. Le collègue Jérémy Filosa viendra nous parler en direct de ce gala pour célébrer le 50e anniversaire de la Fondation des Expos de Montréal. On honore Charles Bronfman, qui a été le copropriétaire de l'équipe à l'époque. Et pour l'instant, Philippe Quentin est avec nous. Salut Philippe.
Salut Jérémy.
Philippe, d'entendre cette soirée gala où on honore Charles Bronfman, c'est une bonne nouvelle, mais de voir que les grosses pointures du milieu corporatif sont sur place pour supporter Stephen Bronfman, ça aussi c'est une bonne nouvelle.
Ça dépend. Ça dépend s'ils ont apporté leur carnet de chèques.
Ah oui, ah ben c'est sûr.
Tu sais, figure de style, évidemment, là, c'est pas ce soir que les chèques vont se faire. Mais il en reste pas moins qu'entre assister à une soirée, apporter un appui moral et réunir la somme colossale que ça va prendre pour obtenir une concession des Ligues majeures. Ce sont deux choses, Jérémy. Et moi, j'ai encore hâte d'en savoir davantage sur comment on va financer ça. Je me souviens d'avoir déjà posé la question à Stephen Bronfman il y a 2 ou 3 ans à l'occasion de sa conférence de presse maintenant quasi annuelle là, lors de la visite des Blue Jays de Toronto au mois de mars ou au mois d'avril. Et il avait dit que ce n'était pas un problème de réunir 1,2 milliard américains potentiellement là, si on regarde le prix, le coût d'acquisition d'une concession. Alors, mais depuis ce temps-là, on n'en sait pas davantage. Il y a combien de gens dans tout ce groupe-là qui sont vraiment prêts à mettre pour atteindre 1 milliard, là, il va falloir qu'il y ait des gens qui mettent 2 puis 300 millions. Là. Tu feras pas ça à coût de 10 millions ou à coût de 20 millions. Puis déjà, 10 ou 20 millions, c'est beaucoup d'argent. Alors, ça va prendre des sommes extraordinaires. Et moi, j'ai encore hâte de voir comment tout ça va se faire. Le groupe de Montréal, c'est comme ça qu'on, c'est leur nom officiel maintenant, semble très confiant. On voit que le dossier avance. C'est une bonne nouvelle. Jérémy Filosa, tantôt, parlait d'une entente là, pour... exploiter, acheter éventuellement les terrains de la Société immobilière du Canada au bassin Peel. Alors, tout ça, ce sont des pas dans la bonne direction, mais encore une fois, au bout du compte, c'est toujours ça qui est important. C'est quand va arriver le temps de déposer l'argent. C'est ça le nerf de la guerre, là, au bout du compte. C'est fondamentalement, à l'heure actuelle, il y a l'appui du baseball majeur. Il y a le baseball majeur... Le commissaire dit qu'il est intéressé, selon certaines circonstances, à revenir à Montréal. Alors, tout de suite, en partant, c'est une différence énorme avec, par exemple, le dossier des Nordiques à Québec, où on n'entend jamais Gary Bettman dire une chose comme celle-là. Alors, tout ça, c'est un plus. Mais encore une fois, tout à coup, il va avoir une facture à régler.
Clairement. Sauf que mieux vaut avoir tout le monde à la grande fête du paternel Bronfman que sortir publiquement dans les médias et tenter d'inviter le corporatif montréalais québécois à se joindre au projet.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis c'est toujours intéressant de voir quelqu'un comme ça qui est honoré. Charles Bronfman, c'est lui qui a amené la concession dans les années 60 à Montréal. C'est battu pour ça avec le maire Drapeau à l'époque. Et puis ils ont réussi un tour de force parce que le baseball majeur, à l'époque, n'avait jamais eu d'équipe à l'extérieur du Canada. Et s'il y a eu les Expos, ben ça a ouvert la porte aux Blue Jays de Toronto par la suite. Alors c'est certainement un précurseur, Charles Bronfman. Il a fait énormément pour Montréal. Quand il a vendu en 1991 au groupe québécois, on pensait que les... Je me souviens à l'époque d'avoir fait des entrevues avec des gens qui étaient dans le groupe, qui me disaient, dans le groupe d'achat, qui disaient les Expos, je me souviens très bien de la figure de style, mais on disait les Expos sont à Montréal pour 100 ans. Eh bien, on sait bien que ça s'est pas passé comme ça. Les Expos n'ont pas été à Montréal pour 100 ans. Et c'est là que tu vois, avec le recul, personne n'a été en mesure de prévoir à cette époque-là ce qu'il en coûterait un jour pour avoir une concession. Puis c'est la même chose à Québec. Quand tu penses que les Nordiques ont été vendus 75 millions américains, penses-tu 75 millions? Aujourd'hui, là, une concession, c'est 650 millions de dollars américains. Puis au baseball, on parle d'au-delà d'1 milliard de dollars. Alors, il y a eu tellement une inflation, tellement rapide de la valeur des concessions du baseball majeur. C'est incroyable la valeur que ça a pris. Et pourquoi ça a pris une si grande valeur? Bien, ça a pris une si grande grande valeur parce qu'il y a eu une multiplication des réseaux de télévision, des chaînes spécialisées. Il y a toutes ces chaînes-là ont voulu de la programmation. Donc, il y a eu une bataille, une surenchère pour acheter les droits de retransmission des matchs. Et ça a créé donc une business avec toujours, toujours plus d'argent, ce qui a évidemment monté de façon fulgurante la valeur des concessions. C'est essentiellement le phénomène qui s'est produit. Mais ça s'est produit à une telle vitesse, à un tel rythme qu'il n'y a plus aucune mesure dans les montants qui étaient les montants du baseball en 2002, en 2003, en 2004, les trois dernières années des Expos à Montréal où on trouvait déjà que ça coûtait cher, et les montants aujourd'hui qui sont en cause. Et je parle des deux grands pôles, c'est-à-dire autant les revenus que les dépenses. C'est deux mondes. Alors, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tantôt. Puis oui, bravo, puis c'est le fun de voir que ça avance bien, mais encore une fois, c'est énormément d'argent.
Un marché qui a besoin de beaucoup de revenus et beaucoup d'exposure, c'est celui des sénateurs d'Ottawa. Bon, il y a des rumeurs. À peu près à chaque jour, on parle d'un nom potentiel de Jacques Martin à Rick Bowness. Et là, le dernier en lice, Patrick Roy. Comment tu vois la possibilité de voir Patrick Roy comme entraîneur des sénateurs d'Ottawa?
Ben, écoute, quand la nouvelle est sortie la semaine dernière qu'il serait probablement là interviewé par la direction des sénateurs, sais-tu, ça a été quoi ma première réaction? Quelle idée? Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Tu sais, dans la liste des candidats, comment se fait-il que personne n'avait pensé à Patrick Roy auparavant? Oui, Jacques Martin, oui, Mark Crawford, oui, Rick Bowness, oui, DJ Smith, mais Patrick Roy, c'est normal également qu'il soit un candidat. Mais je pense que la raison pour laquelle on n'avait pas pensé, puis que personne n'avait véritablement mentionné son nom avant c'est l'Ottawa Sun, qui a sorti la nouvelle la semaine dernière. Je pense que c'est en raison de la façon dont Patrick Roy a quitté l'Avalanche du Colorado. Mm-hmm. En 2012, de mémoire, quand il a quitté parce que il s'entendait pas avec Joe Sakic, qui était son patron, puis il a quitté au mois d'août. Il a pas quitté à la fin de la saison, il a pas quitté au mois de juin dans le temps du repêchage ou des joueurs autonomes, ce qui aurait permis à l'équipe d'avoir suffisamment de temps pour se retourner de bord. Et il a quitté donc à une mauvaise période.
En 2016,
c'est drôle, je me souvenais que j'ai appris ça quand je couvrais les Jeux olympiques. J'étais aux Jeux olympiques, mais c'était pas à Londres, c'était à Rio, de là mon erreur. Mais c'est ça, c'était au mois d'août, c'était pendant les Jeux olympiques, puis je me souviens quand j'ai appris ça, c'est quoi cette histoire-là, abandonner son poste d'entraîneur à quelques semaines de l'ouverture du camp d'entraînement. T'sais, c'est pas quelque chose qui se fait véritablement dans le hockey. Patrick, lui, a décidé qu'à ce moment-là, il écoutait sa conscience. On le sait, c'est un gars qui a toujours fait à sa tête. Et puis, il a une grande confiance en lui. Puis, il a décidé que non, il pouvait plus diriger cette équipe-là. Alors, bravo pour lui d'avoir eu ce cran-là. Mais d'un autre côté, il y a un prix à payer pour ça aussi. Il y a un prix à payer dans la Ligue nationale. Puis, le mot risque de se passer. Écoute, il a laissé tomber l'équipe à un mois du camp d'entraînement. S'il voulait s'en aller, il aurait dû le faire au mois de juin. J'ai l'impression que ça a dû se dire. Et c'est la raison, sans doute, pour laquelle son nom n'a pas vraiment été mentionné par la suite. Alors là, tout le monde se dit, si Patrick Roy revient dans la Ligue nationale, ça va être bien sûr si les Nordiques reviennent dans la Ligue nationale. C'est un naturel pour aller diriger des Nordiques 2.0. Mais là, il n'y a pas de Nordiques dans l'air. Il n'y a pas de Nordiques de retour des Nordiques à court terme. Alors, d'entendre que les sénateurs d'Ottawa pourraient être intéressés à l'embaucher ou à tout le moins sont intéressés à lui faire passer une entrevue, je trouve ça une excellente nouvelle parce que ça démontre que son nom est encore dans la conversation après un petit passage à vide. Et puis, il demeure, je pense, un gars, il a quand même gagné le trophée de Jack Adams. C'est un gars qui a énormément de présence. Et pour un marché comme Ottawa, qui a besoin justement de se remettre sur la carte, il me semble que c'est un candidat que tu peux pas ignorer. Là, t'imagines le buzz au camp d'entraînement. Je veux bien le Mark Crawford ou Rick Bowness, mais Patrick Roy, là, on parle d'une autre dimension.
Ça change la donne et on a l'impression que faut mentionner maintenant le marché d'Ottawa et Gatineau. Parce que si tu vas chercher Patrick Roy, là, il y a des gens de Gatineau qui vont traverser, qui vont aller voir les sénateurs. Écoute, ça, c'est bon pour le guichet, là.
Ouais, c'est bon pour le guichet. Puis en plus, c'est que ça crée une rivalité presque naturelle avec le Canadien. On n'a jamais eu cette rivalité-là, Ottawa-Montréal. C'est venu près de se créer.
On a eu une série un peu.
Ouais, c'est ça.
Lars Eller qui s'est fait frapper.
Ben, voilà.
Mais disons que ça ajouterait un petit peu d'huile sur le feu.
Mais tu sais, après tous ces incidents-là, et tu sais, le fait qu'on croyait que cette rivalité-là, tu sais, on disait, tout le monde disait, ça prenait ça. connaît une grosse série intense. Puis là, il y a une série, puis bon, ça va être à partir de maintenant, ça va être une nouvelle rivalité. Ça s'est jamais vraiment développé. Mm-hmm. C'est comme rester là un peu. On n'est jamais passé à la vitesse supérieure. Alors, tu sais, on n'a jamais pu comparer ça à la rivalité canadien-nordique, par exemple. Mais un gars comme Patrick Roy derrière le banc des Sénateurs, Jérémy, ça met un petit peu de pression sur le Canadien aussi.
Ça change un peu la donne.
Écoute, parce que tout le monde va surveiller les Sénateurs à ce moment-là.
Philippe, le temps file rapidement. Ce soir, évidemment, tu vas regarder ce match entre les Sharks de San Jose et les Blues de Saint-Louis, c'est sûr, parce que c'est sûr que, bon, un petit peu plus tard, il y a les Raptors qui affrontent les Bucks, mais les Sharks en premier, hein, j'imagine.
Une demi-heure de temps, mais je suis pas sûr ce que je vais faire à 20h30 quand le basket va commencer. C'est incroyable, mais je pense que, comme beaucoup de gens, je suis pris un peu dans cette effervescence des Raptors de Toronto. J'ai écouté la fin du troisième match à Toronto il y a deux jours, le match qui est allé en deuxième sur-temps. Jérémy, c'était du grand spectacle et je pense que tu n'as pas besoin d'être d'un grand connaisseur de basketball ou de connaître les joueurs de toutes les équipes ou d'être capable de nommer les cinq partants des Bucks de Milwaukee ou même des Raptors de Toronto pour savourer un spectacle comme celui-là. C'était vraiment extraordinaire. C'était tout un show.
Et Kawhi Leonard est un gars spectaculaire autant offensivement que défensivement.
Voilà. Alors, ce soir, là, un petit coup d'œil sur le basket, très certainement.
Philippe Quentin, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
Salut, Jérémy.
Merci. On s'arrête quelques instants. Au retour, Danny Dubé va nous parler de ce duel entre les Sharks et les Blues de Saint-Louis. Il nous parlera de cette rumeur qui envoie Patrick Roy du côté des Sénateurs d'Ottawa. Vous écoutez les amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco.